Et allez, on remet le couvert.
Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Possibilité de tout là, oui. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le lundi 27 mai, il est 8h30. Au programme de cette matinale, retour dans un instant sur le super spectacle République ou la fabuleuse histoire de la chose publique. C'était à la Jeunesse Verte de Florac il y a une dizaine de jours. Je suis allé le lendemain à la rencontre des élèves de CM2 de l'école primaire qui l'ont interprété avec brio. J'ai rencontré aussi Cyril et Stéphane, le directeur de l'école. On écoute ça tout de suite. Et puis en deuxième partie d'émission, Léo est allé à l'Aven Armand à la rencontre de marcheurs qui relient la grotte Chauvet à la grotte de Lascaux et qui sont passés sur le Causse. Le projet s'appelle Marcher depuis la nuit des tons. On écoute ça tout à l'heure. Exceptionnellement, aujourd'hui, pas d'édito. Et vous êtes bien sur Radio Barthas, vous avez le programme. C'est parti.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes et républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Madame la République, Ridan, c'était d'ailleurs un des morceaux qui était dans les spectacles qui s'est joué jeudi et vendredi 16 et 17 mai dernier. La représentation du spectacle République ou la fabuleuse histoire de la chose publique. J'y étais jeudi, formidable spectacle qui revient sur les 5 républiques françaises. Un spectacle que les élèves de CM2 de l'école Suzette à Culon ont interprété avec brio, incarnant les grands personnages qui les ont façonnés et traversés. Ce spectacle est plein de poésie, d'humour et d'engagement. Ce spectacle m'a littéralement transporté. Je suis donc allé à la rencontre des enfants comédiens, comédiennes en herbe, de Cyril, le metteur en scène, et de Stéphane, le directeur de l'école. Retour donc sur ce spectacle, et quel exercice pour les élèves d'expliquer leur spectacle à la radio. Je pense qu'eux ont préféré les jouer, mais bon, c'est génial quand même. C'est quoi ton prénom ?
Inès.
Alors, comment elle a commencé cette aventure du spectacle République, ou la fabuleuse histoire de la chose publique ? Comment ça a commencé ?
Au début, c'était un peu dur à retenir, et sinon après ça s'est bien passé.
C'est quoi ton prénom ?
Noémie.
Alors fais-nous un petit descriptif du spectacle. C'est quoi République ?
Il parle de la fraternité, la liberté, l'égalité
et de la laïcité.
C'est quoi ton prénom ?
Zia. Et bah, dans le spectacle, on fait de la danse, on a appris beaucoup de textes, on a fait des constructions de cubes.
En fait, avec les cubes, on construit des formes et tout ça. Il y a du chant, des textes, de la danse et une seule poésie. Mmh. Voilà.
Est-ce que vous savez les personnages, est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs, aux auditrices, quels sont les personnages que vous incarnez, vous, que vous représentez sur scène, par exemple ?
Par exemple, en fait, on n'a pas trop de personnages attribués pour l'instant. En fait, on invente un peu des personnages. Bon, il y a une seule scène où on fait Louise Michel, mais après, on n'incarne pas trop les personnages parce que...
Charline, c'est Louise Michel.
Il y a qui d'autre comme personnage ? Est-ce que les noms te viennent comme ça un peu ?
C'est pas, on les joue pas, mais par exemple, il y a une salle qui s'appelle Jules Ferry parce qu'on parle qu'il a rendu l'école gratuite, laïque, obligatoire. Et voilà, enfin, Louise Michel, plein d'autres personnages. Mais...
Et à un moment, dans une scène, il y a Tom et Lucille, ils font les bourreaux.
C'est quoi ton prénom ?
Alpin. On fait... Robert Badinter aussi.
Et à un moment, on parle de la Coupe du Monde, de Zidane et tout ça. Et aussi, à un moment, on incarne les protestants et les catholiques, mais c'est le début. Et aussi, il y a des gens qui... Il y a des enfants, dès le début, ils incarnent des enfants du début et tout ça. Parce que après, sinon, dans les autres scènes, on ne peut pas dire qu'on incarne des enfants parce qu'on a toujours un rôle ou quoi, par exemple Camisard et tout ça.
Et à la scène des bourreaux, ceux qui ne sont pas bourreaux, ils sont des esclaves.
Qu'est-ce qui a été le plus dur pour faire ce spectacle ? Qu'est-ce qui vous a semblé compliqué à faire, en fait ? Ou alors, est-ce que finalement, ça a été super facile ?
Moi, ça a été facile, mais ce qui a été dur, c'est qu'on se rapprochait plus du spectacle, et moi, ça me stressait beaucoup. Du coup, j'étais perturbée, et pour moi, je faisais un peu n'importe quoi, donc...
Ça veut dire quoi, n'importe quoi ?
Au lieu de m'exprimer et parler fort, je ravissais ma voix, j'avais peur, mais... Je trouvais que j'avais plus peur en répétition qu'au spectacle. Et du coup, ça va, en fait. Ça allait mieux.
Comment, moi j'étais dans le public hier, j'ai vraiment pris beaucoup d'émotions, j'ai rigolé, j'ai pleuré parfois. Ah bah ouais, j'ai pleuré, il y a des moments très très émouvants. Toi, ça a été quoi, les émotions que tu as ressenties quand tu étais sur scène comme ça ?
Du stress, j'ai stressé.
Tout le temps ?
Non, pas tout le temps, au début oui. Et après, je me suis... je sais pas, en fait. Enfin, j'ai eu plein d'émotions en même temps. Enfin, je sais pas... Je sais pas dire... Je saurais pas dire toutes mes émotions.
Qu'est-ce que t'as ressenti, toi, sur scène ?
Au début, j'étais très stressée. Après, j'étais contente de faire le spectacle. Et à la fin, j'étais un peu plus soulagée.
Oui, comme elle disait, au début, on était tous stressés. Il y en a certains qui pleuraient et tout ça. Et en fait, après, dès qu'on a ouvert les rideaux, le stress il s'est un peu envolé. Aussi, en fait, au théâtre, on se dit merde.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit, Cyril ? Est-ce qu'il vous a parlé avant le spectacle ? Qu'est-ce qu'il vous a dit avant de monter sur scène ? Ouais, allez, les deux. Hein.
En gros, comme l'ancien spectacle qu'on a fait à Mende, il nous fait un bisou et il nous dit merde à chaque fois, donc c'est un peu drôle.
Oui, et aussi, il nous souhaite bon courage, tout ça, et bien sûr, merde. Enfin, tout le monde se souhaite merde, parce que c'est la tradition.
C'est quoi ton prénom ?
Anaé.
Comment ça s'est passé pour toi, le spectacle de jeudi et ce matin là, avec les scolaires ? Comment ça s'est passé ? Comment tu l'as vécu ?
J'étais stressée, j'avais la boule au ventre, mais sinon après ça a passé et je me suis éclatée.
Quand tu es sur scène, le stress il passe ? Comment tu peux l'expliquer ? Ça veut dire que tu t'amuses dans les spectacles, etc. Qu'est-ce qui se passe quand tu es sur scène ?
Ben oui, je m'amuse. Voilà quoi. Capucine.
Comment tu l'as vécu ce spectacle ? Comment tu le vis ? Parce que c'est pas encore tout à fait fini.
Au début, comme tout le monde, on était stressé. Puis après, le stress il s'évapore, si je veux dire ça comme ça. Et après, on s'éclate tous. Hein.
Comment vous avez travaillé ? Est-ce que vous avez travaillé les textes chez vous ? Est-ce que vous avez beaucoup travaillé ensemble ? Comment ça s'est passé vraiment pour élaborer ce spectacle ?
Un peu les deux. Quand on faisait les répétitions, on surlignait les trucs qu'on devait apprendre. Puis après, chez nous, on les apprenait, quoi.
C'est quoi la République pour toi ?
Plein de choses.
Moi, j'allais dire liberté, égalité, fraternité, laïcité, mais...
Pour nous, c'est... En tout cas, ce spectacle, c'est surtout la fraternité. Être ensemble, travailler ensemble, bien s'entendre. La fraternité, quoi.
Aussi l'égalité. L'égalité pour les votes, par exemple.
Et la liberté, est-ce que vous vous sentez libre ?
Oui.
C'est quoi ton prénom ?
Angéline. C'est libre de s'exprimer, qu'on ait le droit de penser ce qu'on veut sans que quelqu'un nous dise non.
Comment toi t'as travaillé ce spectacle ? Comment t'arrives à te sublimer comme ça sur scène et à faire des choses ? Est-ce que d'ailleurs t'avais imaginé pouvoir faire des choses pareilles avant ce spectacle-là ?
Je pensais pas qu'on y arriverait parce que avec tout le texte qu'on avait à apprendre et tout, au début on avait fait des affiches pour un peu comprendre les tableaux. Et quand la maîtresse, la première fois, nous a lu tout le scénario, on a pris quelques jours quand même à comprendre le scénario et je pensais pas qu'on y arriverait.
Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que vous avez eu sur nous, public ? Est-ce que vous vous rendez compte des émotions que vous nous avez données ?
Là, je pense qu'on ne s'en rend pas encore compte, mais quand on fera plus de théâtre et tout ça, ça nous fera quand même triste. Parce que on a adoré ce projet, quoi.
Chers frères blancs,
quand je suis née, j'étais noire.
Quand j'ai grandi, j'étais noire.
Quand je suis au soleil, je suis noire.
Quand je suis malade, je suis noire.
Et quand je mourrai, je serai noire.
Tandis que toi, homme blanc,
quand tu es né, tu étais rose.
Quand tu as grandi, tu étais blanc.
Quand tu vas au soleil, tu es rouge.
Quand tu as froid, tu es bleu.
Quand tu as peur, tu es vert.
Quand tu es malade, tu es jaune.
Quand tu mourras, tu seras gris.
Alors, de nous deux,
qui est l'homme de couleur ?
Alors, c'est quoi ton prénom ?
Kélian.
Comment tu l'as vécu, ce spectacle ?
Bien, mais il y a des moments tristes, donc après, nous donne envie de... on est triste, après, s'il y a la guerre, c'est pas joyeux, quoi.
Comment t'as travaillé ce spectacle ? Est-ce que tu l'as travaillé chez toi ? Est-ce que tu l'as travaillé avec tes copains ? Comment t'as abordé un peu les rôles ?
Il y avait mon prof de théâtre, il y avait mes copains, et on le faisait, il y avait des danses à faire, donc on les révisait aussi à notre maison.
Quel souvenir tu vas garder de cette aventure ?
Le moment où on travaillait pour faire le spectacle.
C'était chouette pour toi ?
Oui.
Est-ce que ça t'a donné envie de refaire du théâtre ou de la danse ?
Oui.
Avec Cyril ?
Oui.
Avec qui ?
Cyril.
Salut, c'est quoi ton prénom ?
Clémence.
Alors, quel personnage tu as incarné, toi, dans ce spectacle, sachant qu'il y en a plein un peu partout. C'est quoi, un peu, les personnes dont tu devais dire les phrases, et quel genre de phrases ?
Moi, je disais plutôt des textes inventés. Après, par exemple, il y a la Révolution, où j'ai joué un rôle d'une révolutionnaire. Et il y a eu aussi des moments de rigolade. Il y a eu des moments aussi de où il y en a qui se sont trompés, mais on s'est rattrapés.
C'est ça l'idée, c'est que c'est une aventure toutes et tous ensemble, vous êtes.
Ouais.
Et toi, genre, tu pourrais nous faire un petit extrait de ce que tu dis dans le spectacle ? Une petite phrase qui t'arrive un peu comme ça ?
Mes amis, ne comptons plus ces crimes, n'attendons plus, frappons le colosse effrayant du despotisme, qu'il tonne, qu'il se brise en éclats, et que le bruit de sa chute fasse pâlir les tyrans du monde entier.
Un mot, je vous demande un mot pour qualifier le spectacle.
Fête, bonheur.
Du stress, j'ai été heureuse et un peu triste aussi.
Fête, triste.
Super.
Intense.
Génial.
Génial aussi.
Passionné en fait. Enfin, moi, le théâtre c'est mon boulot, mais c'est ma passion aussi. Et pour moi, c'est pas quelque chose de poussiéreux ou qui n'est pas contemporain en fait. Le théâtre pour moi, c'est pas quelque chose qu'on doit remiser dans un grenier en fait.
Cyril Djalmit, metteur en scène.
C'est du spectacle vivant. Les spectacles vivants, c'est être en lien avec les autres, c'est pas être devant son écran, c'est voilà. Et ouais, moi je suis tellement trop content de me dire que les enfants peuvent s'amuser, parce que en fait voilà, c'est quand on parle du théâtre, on dit on joue, les acteurs jouent. Donc jouer, c'est vraiment voilà, du jeu, s'amuser en fait, et c'est ça le théâtre. Donc si les enfants, enfin là ils s'amusent en fait, donc c'est tout gagné en fait. Là on est sur tous les objectifs à 100% quoi, et voilà, c'est ça, c'est dire aux gens que le théâtre c'est pas un truc vieillot, tout pourri, qui est pas du tout plaisant. Non, au contraire, c'est quelque chose, mais comme la danse, comme la musique, comme tous ces arts, voilà, spectacle vivant quoi.
Il y a des spectacles qui font 40 minutes et qui nous semblent une éternité. Il y a un spectacle de 2 heures qui nous semble une seconde. Comment tu as travaillé le rythme de ce spectacle ? Comment tu l'as réfléchi ?
Oh là là, tu veux que je rentre dans les détails de...
Un petit peu.
En fait, quand tu crées un spectacle, il y a ce qu'on appelle une courbe dramaturgique. Donc la courbe dramaturgique, en fait, elle part d'un point A pour aller vers un point B. Et elle est c'est pas linéaire en fait. Cette courbe n'est pas linéaire, c'est-à-dire que elle oscille. Alors elle va vers des émotions qui sont puissantes, des moments de pause. Voilà, c'est et tout est en symbiose en fait. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre entre le texte, le corps, le jeu d'acteur, les musiques. Il y a quelque chose qui me vient là, c'est que Shakespeare, en fait, quand il a écrit ses pièces de théâtre, il a remarqué qu'à la 45e minute à peu près de spectacle, l'attention des spectateurs baissait. Et donc, dans toutes les pièces de Shakespeare, il se passe quelque chose à la 45e minute, enfin à peu près quoi, c'est-à-dire à peu près au un tiers ou à la moitié du spectacle, ça dépend des pièces de Shakespeare, il y en a qui sont très longues, mais et oui, c'est ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une courbe dramatique, donc en fait, en tant que metteur en scène, c'est ça mon boulot, justement, c'est de voir quand est-ce que moi je m'embête et voilà, et de créer justement de la surprise, un rebondissement, quelque chose qui réveille les gens, en fait. Voilà.
Magique. Je me pose la question aussi hier avec donc les cubes ont été faits par Gaël, hein, plasticien. Je pense que cette idée.
Non, les cubes, ils ont été faits par Sébastien. D'ailleurs, franchement, si je peux rendre hommage à quelqu'un là, c'est Sébastien qui est donc agent municipal de la mairie de Florac. Et donc il a un petit talent de menuisier. Et donc il nous a fait un prototype. Moi, je lui ai dit voilà, il nous faut des cubes en bois, 35 cm par 35 cm avec des poignées. voilà. Et du coup, il nous a fait juste un truc fabuleux, c'est-à-dire qu'il a fait des vrais cubes poncés, polis, faits avec amour, on voit même pas les vis, tout est caché par de la colle à bois, enfin, c'est vraiment magnifique, et vraiment il a fait un super boulot parce qu'il a fallu en faire 31 comme ça, et qu'il l'a fait avec un grand plaisir, et vraiment c'est toutes ces petites choses aussi qui font le spectacle aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a eu aussi d'invisible, parce qu'il y a plein de gens invisibles, il y a Sébastien qui est invisible. Personne ne peut s'imaginer que voilà, il a passé autant de temps dans son atelier. Il y a rien que la mairie de Florac qui a payé le décor. En fait, ils nous ont payé le décor. C'est invisible. Gaël, donc Simonet, qui a lui fait toute la partie plastique avec les enfants. Voilà, encore quelque chose d'invisible. Les techniciens aussi qui nous ont suivis, que ce soit Amande, que ce soit Florac, Vincent, Cléo. Voilà, on a l'impression que la technique, c'est pas grand chose, mais en fait, voilà, la lumière, ça demande un travail énorme. Donc, voilà, moi, je rends hommage aussi à ces choses invisibles.
Ouais. Honneur est rendu et ça fait du bien. Donc, pour revenir à ces cubes, à un moment, je me suis dit sur la première fois où les enfants manipulent ces cubes, qui sont quand même assez lourds, hein, etc., ça prend du temps. Et en fait, je me suis dit, au plus ça avance dans le spectacle, au plus ça prend toujours un peu de temps, en fait. Mais ils doivent s'entraider, ils doivent se passer les cubes, ils doivent réfléchir. Donc en fait, ça prend du temps. Ils parlent entre eux, mais on les entend pas. Donc en fait, je me suis dit, simplement, est-ce que je me trompe en disant que c'est l'idée que la République, le faire ensemble, tout ça, ça se fait ensemble et ça prend du temps. Est-ce que c'était ça, c'est fait exprès, ou alors c'est juste un gros coup de bol que ce soit passé comme ça? Et finalement, je l'ai vécu, après, on vit chacun le spectacle comme on le vit. Je sais pas, c'était pensé comme ça et réfléchi comme ça.
C'est plein de choses, oui, forcément, il y a plein de choses qui sont évoquées. Après, c'est ça qui est génial, c'est que l'imagination du spectateur va au-delà de l'imagination du créateur. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Mais oui, forcément, la construction, la déconstruction, la coopération. Et puis aussi, la République se déconstruit des fois, elle se reconstruit. Et puis ces mots qui apparaissent. Moi, je trouve ça toujours fascinant, là, dans ces changements. À chaque fois, la déconstruction des mots, en fait, les lettres qui partent une à une, c'est émouvant de voir ça, parce que en effet, ça évoque énormément de choses, quoi. Ah ouais, moi, je laisse le spectateur s'imaginer tout ce qu'il veut, en fait. Mais c'est vrai que c'était un peu fait exprès, oui. Et aussi, le fait qu'on est dans une espèce de rêve, en fait. C'est très onirique, en fait. Donc, d'être comme ça aussi avec des lumières, parce que les lumières ont leur importance, il n'y a pas de face à ce moment-là. C'est une lumière à contre-jour, oui, donc ils construisent la scène aussi, sans y voir très clair, en fait. Donc, on est dans une espèce de rêve aussi. Bon, je ne vais pas spoiler l'histoire, mais oui, c'est un rêve tout le long du spectacle.
Deux petites questions pour finir. La première, on se dit toujours là je crois que j'ai vraiment abouti, je suis arrivé là où je voulais en arriver. Est-ce que là c'est ton cas où tu te dis tiens, sur deux trois trucs j'aurais pu faire autrement?
En fait, c'est marrant, on en a parlé hier avec les enfants, parce qu'ils ont toujours des idées supplémentaires qui arrivent, en fait. Et du coup, j'ai validé des trucs hier, par exemple, où je leur ai dit, ça, oui, faites-le. Il y a des choses qui arrivent, et encore ce matin, il y a des choses qui sont arrivées. En fait, le metteur en scène, il n'est pas là pour dire ce que les gens ont à faire. Normalement, c'est les comédiens qui proposent des choses sur scène, et lui, c'est une espèce de sablier, c'est-à-dire qu'il resserre les choses et il dit, ça c'est juste, ça c'est pas juste, parce que le metteur en scène est le regard extérieur. Donc en fait, oui, le spectacle vivant, par définition, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est vivant, il bouge, il est mouvant, et que ça serait une hérésie de se dire ça y est, l'objet est gravé dans le marbre. Non, au contraire, ça bouge tout le temps, il y a des choses qui ont encore changé depuis ce matin et qui vont encore bouger ce soir. Et ouais, je suis presque déçu que ça se finisse ce soir, parce que bah, justement, il y a tout ce plaisir de voir évoluer le spectacle. Là, on l'a fait avant, il faisait 2 heures. Là, on l'a fait ce matin, il faisait 1h40. Donc, ouais, il évolue en rythme. Et puis, c'est pas pour ça qu'il y a moins de choses. Même, il y a beaucoup plus de choses, mais condensées. Et ouais, c'est beau de voir les enfants s'emparer de plus en plus du spectacle, en fait.
J'ai posé la question aux enfants, un mot pour qualifier ce spectacle, un ressenti, une émotion, ce qu'ils voulaient. J'en ai eu beaucoup, je te les dirai pas, comme ça toi tu sors ce que tu veux. Toi, si tu as un mot, ce serait lequel?
Alors c'est marrant parce que toutes les séances que j'ai faites avec eux, j'en ai fait un paquet, à chaque fois, à chaque fin de séance, c'était le mot de la fin. C'est-à-dire que je demande aux enfants de donner un mot pour me dire ce qu'ils ont ressenti durant la séance. Donc à chaque séance, c'était le cas. Ils me donnaient un mot. Donc voilà, ça me fait déjà rigoler que tu me dises ça. Et à mon avis, ils n'ont pas eu de mal à répondre parce qu'ils ont l'habitude, en fait. Et c'est très drôle de voir comment on peut en un mot résumer les choses. Alors après, il y avait des mots interdits quand même. On n'avait pas le droit de dire bien, super, cool et nul. Mais après, on pouvait dire des choses autant positives que négatives, mais d'aller un peu dans des adjectifs, dans des choses un peu précises, quoi. Et moi, si j'avais un mot là, je dirais inoubliable. Inoubliable.
Merci Cyril et bravo.
Merci.
Donc aujourd'hui, on va arrêter ce cours d'instruction civique et morale et nous allons faire maintenant des mathématiques. Prenez votre cahier, mettez la date. Jeudi, veuillez mettre additionner.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Ben.
Bravo.
Ben merci et bravo aux enfants.
C'est bluffant, on passe par beaucoup d'émotions dans ce spectacle, donc je ne savais pas que tu jouais, tu me l'as caché à la matinale, voilà. Et qu'est-ce que ça fait de se retrouver comme ça et d'être porté par ces énergies que tu as autour de toi sur scène? Disons-le, tu dois raconter les 5 républiques plus ou moins, t'incarnes un personnage dans un fauteuil roulant, voilà, c'est un peu... Ouais. Alors on ne sait pas trop si tu es encore là ou plus là, si c'est un rêve, etc. En tout cas, qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur scène avec ces 31 gamins autour de toi?
Ah ben, beaucoup d'émotions, parce qu'en fait, je joue mon boulot, je joue ma vie, quoi, en fait. Et voilà, et donc, du coup, ben, je partage un moment extraordinaire avec des élèves. C'était un petit peu aussi le deal du départ, c'est-à-dire que mes élèves, je leur avais proposé cette pièce de théâtre, ils m'avaient dit, mais on veut jouer mais avec toi. Donc voilà, donc c'est ce qui a été fait. Puis après, Cyril a fait le reste pour essayer de trouver une mise en scène cohérente et qui finalement retraçait un petit peu mon parcours. Voilà. Donc c'était vraiment chargé beaucoup d'émotions.
Pour être directeur d'école, il faut beaucoup de bienveillance, il faut beaucoup aussi parfois peut-être de fermeté, il faut beaucoup de qualité. Est-ce que finalement être directeur d'école, ce serait pas se donner aussi un rôle de théâtre tous les jours?
Ouais, effectivement. Alors après, il y a toujours la réalité qui nous rattrape. Mais bon, en tout cas, on essaie de partager quelque chose de commun. Et la République, c'est comme un boulot. On doit partager des tas de choses. Et puis, on essaie de le faire avec du plaisir. Et je crois que c'est bien là l'essentiel. C'est-à-dire que quand on apprend en se faisant plaisir, sans forcément beaucoup de contraintes, on apprend plus vite. Et puis, on en sort grandi, à la fois pour les élèves qu'ils sont et pour le directeur que je suis.
Et sur le spectacle, pour le public aussi, parce qu'on prend une sacrée claque en venant voir le spectacle, une claque d'émotion évidemment. Qu'est-ce que tu retiendras, toi, de ce spectacle? Qu'est-ce qui te restera là, dans 30 ans, que tu seras en fauteuil roulant, peut-être en ayant Alzheimer, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu retiendras en tout cas?
Bah, une fabuleuse aventure humaine. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que quelque part on se dévoile auprès de ses élèves, les élèves, on arrive à mieux les connaître, Cyril, Emmanuel, les collègues avec qui on bosse aussi, et tous les acteurs, Muriel, Gaël, Malik, voilà, et ça c'est magique quand on apprend à mieux se connaître, et voilà, donc c'est aussi, il y a beaucoup d'intimité que finalement on est obligé de mettre un petit peu sur scène, et donc ben voilà, on prend quelques risques, mais bon, des risques mesurés, mais en tout cas on prend vraiment beaucoup de plaisir, et je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'au travers de ce qu'on peut vivre actuellement, comme je le disais à la fin du spectacle, je crois que quelque part on donne peut-être aussi au travers de ce spectacle beaucoup d'espoir, c'est-à-dire que finalement la fraternité, la solidarité, eh bien quand on est tous ensemble sur une cause commune, ben on peut faire bouger les lignes, et moi je trouve que c'est hyper intéressant, et quand ça vient de l'éducation nationale encore plus.
Alors forcément tu les auras pas, mais j'ai demandé un mot pour qualifier ce spectacle aux enfants et à Cyril. Il y a des mots interdits, donc là, aventure humaine, tu l'as déjà dit, donc voilà. Mais un mot pour qualifier ce spectacle.
Fraternité.
Merci beaucoup Stéphane.
Merci Ben.
Allez, on arrive tout doucement à la fin de cet échange, et les enfants ont voulu dire un petit extrait de leur spectacle. Allez, c'est parti.
Au début, ça fait écouter mes amis la pétition de Jacques Roux. La liberté n'est qu'un vain fantôme lorsqu'une classe d'hommes peut affamer l'autre impunément. L'égalité n'est qu'un vain fantôme quand le riche par le monopole exerce le droit de vie ou de mort sur son semblable. La révolution n'est qu'un vain fantôme quand la Quand la contre-révolution s'opère de jour en jour par le prix des denrées auxquelles les trois quarts des citoyens ne peuvent atteindre sans verser de larmes. Et après, il y a une autre phrase, mais... Ok. Les riches, seuls depuis 4 ans, ont profité des avantages de la révolution. Il est temps que le combat à mort que l'égoïste livre contre la classe la plus laborieuse de la société finisse. Et je l'ai bien aimé parce que ils sont en colère, parce que ils trouvent ça injuste que au quartier les riches, au quartier des Tuileries, eh ben, par exemple, ils ont plus de trucs que les autres gens. Enfin, genre par exemple pour le pain, eux, eh ben, ils font la queue pendant 3 heures au moins, et pour avoir un crouton pain, alors que les riches, eux, ils ont du pain tout le temps. Voilà, c'est pour ça que je l'ai bien aimé.
Ben, moi, c'est un texte qui est dans le droit de vote des femmes, que j'ai beaucoup aimé. Et ça fait... Oui, c'est un moment historique pour nous toutes. Après tant d'années à lutter pour ce droit, nous allons enfin avoir notre mot à dire dans la communauté. Et ben, je l'ai bien aimé parce que c'est touchant. Les femmes, elles n'ont jamais pu voter, alors que ben, là, c'est la première fois. Et voilà.
C'est quoi ton prénom ?
Alba.
Moi, c'est Dahlia. Moi, c'est dans la scène de l'esclavage. C'est quand je fais le narrateur. Parce que bah, c'est... En général, les esclaves, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Et là, ça défend les esclaves.
Est-ce que tu peux nous faire une petite réplique que tu dis dans le spectacle à ce moment-là ?
Un commerce d'hommes, grand Dieu, et la nature ne frémit-elle pas ? S'ils sont des animaux, ne le sommes-nous pas comme eux ? Pourquoi les blancs diffèrent-ils de cette espèce ? La couleur de l'homme est nuancée, comme dans tous les animaux que la nature a produits, ainsi que les plantes et les minéraux. Pourquoi le jour ne le dispute-t-il pas à la nuit ? Le soleil à la lune et les étoiles au firmament. Tout est varié, et c'est là la beauté de la nature. Pourquoi donc détruire ses ouvrages ?
Je m'appelle Solène.
Toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce spectacle République ?
Bah, j'ai bien aimé aussi quand on s'amusait à la Coupe du Monde 98, parce que ça m'a marqué, parce qu'on avait le droit de s'amuser alors qu'on était en train de travailler. Enfin, ça faisait un peu une pause où on pouvait se relâcher un peu. Je pense de retenir tous les textes que parfois, là, tout à l'heure, j'ai une montée de stress. Par exemple, quand on a fait notre spectacle, j'ai failli oublier toutes mes phrases. Du coup, bah, j'ai eu assez peur.
Et finalement, ça a été ?
Oui, ça a été.
T'as un moment qui t'a marqué dans le spectacle ?
Oui, j'en ai deux d'ailleurs. Ben, j'ai adoré, mon premier moment, ça a été quand il y a une alarme, ben, en fait on court partout et après on se fait taffer par un éclair et on tombe par terre. Et du coup, ben, tu peux te reposer en même temps et tout ça. Et après, l'autre, ben, c'était la première scène qu'on a fait, c'est la guerre des Camisards. Parce qu'à un moment, je fais un texte que j'adore. Du coup, ben, voilà.
Ah ben, tu peux nous en faire un petit extrait ?
C'est horrible. Les habits du roi ont été critiqués, ce qui a semé les graines de la République, une gouvernance où le peuple aurait plus de pouvoir. Ainsi, même dans la souffrance, la guerre des Camisards a contribué à préparer une France en quête de liberté et de justice pour tous. C'était en 1702 et cela a commencé non loin d'ici, au pont de Montvert. Après les chevaliers cathares, les Camisards portèrent haut les couleurs de la liberté de conscience, trois quarts de siècle avant la Grande Révolution.
Et voilà pour ce fabuleux spectacle. Bravo encore aux élèves de l'école Suzette à Gulon, ici à Florac. Allez, dans un instant, on parle pour un projet qui s'appelle Marcher depuis la nuit des temps. Et justement, on écoute le pieu.
Mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent. Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté. Et je reste seul sous le porche à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir où tant de mains se sont usées. Ils chantent des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Oh, si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. La 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 la
Mercredi 15 mai 2024, je suis allé à la rencontre des marcheurs et de l'équipe de marché depuis la nuit des temps. Le rendez-vous était posé devant l'Avenarmand qu'ils s'apprêtaient à visiter. Ce programme audio est donc basé sur cette rencontre avec Estelle Martinet, régisseuse terrain du projet, Georges Matichard, metteur en scène de la compagnie, Dominique Laroche, guide pour l'Avenarmand, et les trois marcheurs, Tiffaine Laurent, Nathalie Vino et Christophe Penchanaz. Je vous laisse découvrir un à un chacun d'entre eux.
Alors, je m'appelle Estelle Martinet et dans le projet Marché depuis la nuit des temps, je suis sur la partie régie terrain. Ce qui consiste à en fait faire le lien entre l'équipe de marcheurs et les différents partenaires, lieux d'hébergement, accueil. Voilà, je fais un petit peu la voiture balai et je transporte les affaires des marcheurs, la nourriture. On a commencé déjà la première marche lundi, donc on est parti du Temple et on est arrivé donc à Nivolier. Là c'était vraiment une journée de marche et ensuite à partir de hier on a commencé à faire quelques rencontres et notamment avec l'équipe de l'association TAC. Les chevaux de Prévalski. Comme hier, c'était une journée très, 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 très pluvieuse, les marcheurs n'ont pas pu marcher, donc on a passé toute l'après-midi avec l'équipe de l'association TAC. Et aujourd'hui, nous avons eu la visite du moulin de la Bourrie par Guillaume, le meunier. Et cet après-midi, avec Dominique, on va découvrir l'Avenarmand. Et sur les autres jours, il y aura d'autres rencontres, notamment la ferme Cosnard, demain matin. Et ensuite, on continue la marche et il n'y aura pas d'autres visites. Alors, le gros point fort de la semaine, c'est effectivement la fin de l'étape de la semaine qui va se dérouler donc un endroit, un tiers-lieu qui s'appelle le Bèze, qui est pas très loin de Sèvrac le château. Et ce moment-là est un peu le moment de rencontre, de restitution des marcheurs et aussi avec le public. Et tout le travail qui a été fait cette semaine à Sèvrac le château autour de la médiation, il y a eu de la médiation avec une école, avec le public à l'office de tourisme. Et en fait, samedi, ça va être différentes activités qui vont être ouvertes au public pour que le public rencontre à la fois l'équipe de marché depuis la nuit des temps, les marcheurs. Et il y aura d'autres activités sur ce temps fort-là.
Bonjour, alors moi je suis Georges Matichard, je suis metteur en scène de l'agence Monique Lézard qui est une compagnie de théâtre de rue et voilà, je suis un peu à l'initiative de ce projet de marché depuis la nuit des temps qui est né en 2019 mais qui prend tout à fait ses racines dans le travail qu'on fait avec la compagnie depuis très longtemps sur l'imagination, l'histoire, la créativité, le parcours, toutes ces notions qu'on a beaucoup brassées. C'est un projet qui est assez complexe parce qu'on est sur un projet de territoire, donc c'est pas vraiment notre vocation à nous, théâtre de rue, on fait plutôt des spectacles généralement qui jouent, et là on s'est plutôt penché sur une proposition qui est d'une exploration pendant 3 ans, 4 ans, entre même plus que ça, parce qu'entre le début de l'écriture et la fin de l'été, on en sera presque à 5 ans de l'existence de ce projet. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur un territoire, à développer et à comprendre tout un territoire, de façon à poser de manière pérenne un projet après. Donc ça veut dire que tout ce que l'on fait depuis 2 ans sur le terrain, 3 avec le repérage, c'est de l'expérimentation, on essaye des choses et l'idée c'est vraiment de tout synthétiser, de poser ça à l'automne pour voir quel type de projet on va pouvoir développer par la suite. Donc voilà, on est vraiment sur un projet sur très long terme, on est sur le temps long. C'est déjà, voilà, c'est la base, hein, c'est 38 000 ans de Chauvet déjà, donc on a le temps. Moi je dirais qu'on a vraiment deux publics, c'est-à-dire qu'on a un premier public et un public de proximité qui sont toutes les personnes rencontrées. Donc ça c'est très diffus, ça se passe parfois en groupe de 1, 2, 3, 10, pareil, on est sur des toutes petites jauges, et ça va depuis la famille à un groupe scolaire, à un groupe de village, voilà, ou une association, un repas, un groupe de marcheurs dans un gîte partagé, ça va de ce genre de public-là, qui sont tout petits, faire une petite jauge, et on s'est quand même arrangé pour grandir un peu la jauge, pour faire tous les week-ends des temps forts, en partenariat avec nos plus gros partenaires. Donc on en a 8 sur la totalité du parcours, et ces temps forts, pour le coup, ça se passe de manière plus classique, c'est un samedi, une convocation publique, donc là c'est le public local qui vient, et ça navigue, je dirais, au plus bas à 20-30, et parfois 80-100 personnes à peu près sur chaque temps fort. Alors sur les temps forts, c'est vraiment l'idée, c'est que ce soit un mélange, c'est-à-dire que d'une part qu'on puisse parler du projet, parce que le projet véhicule beaucoup de fonds, et c'est ça qui intéresse généralement les gens. Donc là, il y a une grande partie de présentation, d'exposition, on va dire, hein, d'exposition du projet, et d'échange autour de ça. Et bien, l'échange avec le public, c'est-à-dire qu'on a le... donc il y a ça, il y a cette exposition, la présentation du projet. Le petit groupe de marcheurs qui est en train d'arriver, entre autres, se retrouve à la fin de semaine, et eux, ils font une restitution de leur traversée. Donc là, on leur demande de faire de la performance. C'est assez libre, hein, donc parfois c'est de la danse parce qu'il y a une danseuse, parfois c'est de la musique parce qu'il y a un musicien, parfois c'est de l'écriture. Tout est possible. Donc il y a une restitution de leur traversée qui est donnée au public. Le projet, c'est vraiment d'avoir une résidence, de fabriquer des résidences itinérantes et pédestres dédiées à l'inspiration. Ça, c'est vraiment le fond du projet.
Alors, je m'appelle Dominique Laroche-Dieuède, je suis guide spécialisé dans les grottes aménagées pour le tourisme, et je m'occupe également des relations médias et des événements culturels, donc de cet endroit extraordinaire qui est la grotte de la Vénarmont. Ça va faire presque 30 ans, donc je connais bien l'endroit, donc on est sur le Cosmégen, donc un haut plateau calcaire, hein, coincé au nord par les gorges du Tarn, et au sud par les gorges de la Jonte. Donc c'est un plateau désertique, hein, l'endroit le plus isolé d'Europe. On est loin de tout ici, hein, loin des grandes métropoles, Montpellier, Clermont-Ferrand, Toulouse, à 3 heures de route. La caractéristique principale de cette cavité, c'est qu'elle se situe entre moins 40 et moins 110 mètres de profondeur. Elle est grande comme un stade olympique. Elle renferme la plus grande concentration au monde de stalagmites. Hein, il y en a plus de 400 qui font plus d'un mètre. Et une qui culmine à 30 mètres de hauteur, et c'est une des plus grandes au monde, et c'est la plus grande visible dans une grotte aménagée pour le tourisme. C'est une salle unique, c'est un paysage extraordinaire, ça se visite comme un beau bâtiment architectural, c'est une cathédrale baroque, elle nous fait penser aux œuvres de Gaudi.
Écoutez, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est complètement sensationnel.
J'imagine bien l'intestin d'un corbeau. Ouais, ça te tombe.
Ouais, c'est déjà creepy, mais...
Une bouche.
On dirait plein de champignons. Oh, moi, je trouve ça incroyable. C'est super beau. C'est super beau, c'est très étonnant, parce que c'est à la fois végétal, minéral, animal. J'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction et en même temps d'être dans un espace très, très vieux, très, très lointain. Des coupes totalement archaïques. C'est super beau. J'adore. Ça donne envie de rester longtemps. Moi j'en ai déjà vu, mais pas autant comme ça. Pas aussi immense non plus. Pas aussi grand. Ça fait beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions.
Ou un peu alien.
Oui, il y a un truc très science-fiction.
Ouais.
Ah oui, oui. Et près, organique aussi, à des moments, t'as l'impression de voir des parties de corps humains, un peu étranges. Il y a un crâne, chauve, des gros yeux, une bouche à moitié déformée comme un bras qui vient là. Tu le vois pas?
Non, j'y arrive pas. Ah. Une sorte de squelette.
Ah.
Qui, même une tu femme vois, tu vois, qui se déploie vers là-bas avec les deux bras.
Tu vois pas les arcades sourcilières, les deux trous.
Tu le vois?
Très étrange cette sensation, effectivement, qu'il n'y a plus de.
Il n'y a plus de distance.
De distance, de grandeur. C'est très très. Et en même temps, c'est très rassurant.
Je m'appelle Tiffaine Laurent,
Je suis illustratrice et je me dis ethno-paysagiste. C'est un mot farfelu que j'ai inventé pour dire que je travaille autour de nos récits avec les vivants qui habitent le paysage. Là, je suis installée dans le Limousin. J'étais Creuse, maintenant je suis Corrèze dans des fermes. Mais je viens de Gironde, campagne viticole. C'est une personne que j'ai connue il y a un an qui m'a dit « Ah ben, je vais faire une résidence, c'est un copain qui la monte, ça a l'air incroyable, il y a de la marge depuis le temps qu'il m'en parle et tout. » Et du coup, il m'a un peu ramené sur le projet parce qu'on pensait le faire ensemble. Et finalement, il va marcher après moi, donc on va se donner le relais. Et voilà, du coup après je suis partie m'intéresser aussi à ce qui était marché depuis la nuit des temps et j'ai trouvé ça trop cool et c'était pile dans les sujets de ce sur quoi je travaille, donc j'ai fait, ah ouais, en première résidence artistique, ça me tente vraiment vraiment bien, cette connaissance du territoire par la marche et puis de parler d'imagination. Habituellement je suis très flippée de ce genre de démarrage et puis je me suis pas trop posé la question. Et au début, j'ai rencontré Christophe parce que je l'ai emmené en voiture en covoite. Donc on a pu avoir un peu de temps avant. Après, j'ai rencontré Nathalie. Et en fait, ça s'est fait très, je trouve, très naturellement. Et c'est assez, ça me met bien en confiance. Moi, je suis en train de collecter un peu à chacune de mes marches des matériaux, des trucs que je trouve dans les paysages que je traverse. Et j'aimerais bien voir ce que je peux en tirer au niveau de la couleur ou du geste ou du trait. Parce que du coup, je vais faire plutôt restitution en dessin, mais qui est très différent de ma pratique habituelle. Donc, en fait, je prends aussi là le temps de me mettre en porte-à-faux et puis de voir ce que ça va donner. Non, du coup, grosse surprise. Et puis là, pareil, monde souterrain. Moi, je suis pas du tout habituée à ces grottes de stalactites et stalagmites. Et c'est assez fascinant, mais tellement que t'en perds un peu d'abord ce que t'en penses et après t'essaies de repenser à qu'est-ce que ça me fait. Mais j'aurais juste envie de dessiner pendant une heure là-dedans en fait, d'être solo au milieu des stalagmites et de dessiner encore et encore.
Donc je m'appelle Nathalie Vineau, je viens de Toulouse, j'ai 58 ans, je suis comédienne, chanteuse, clown, autrice. Depuis plus de 30 ans. Je suis arrivée ici par Estelle, que j'ai rencontrée à MIMA, festival de spectacles de marionnettes à Mirepoix. Et voilà, qui m'a parlé, et j'ai rencontré Pauline aussi à cette occasion. On a joué un spectacle il y a 4 ans, puis je suis revenue faire du bénévolat pendant 2 ans. Et la dernière fois, donc Estelle et Pauline m'ont parlé de ce projet très mystérieux de marcher depuis la nuit des temps. Et ça m'intriguait beaucoup. Moi, je ne suis pas du tout une marcheuse. Donc déjà, rien que l'idée de marcher dans un paysage que je ne connaissais pas, c'était déjà énorme pour moi de prendre ce temps-là. J'ai l'impression depuis un petit moment de courir après le temps et en même temps qu'il me file entre les doigts et que je n'arrive pas à me poser. C'est très paradoxal et contradictoire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est assis à l'intérieur de moi et qui manque de mouvement, et en même temps j'ai l'impression d'être dans une espèce de tourbillon où le temps file et de ne pas goûter justement ce temps-là, de ne pas prendre le temps du vide, de laisser venir les choses, de ne pas être dans l'injonction de faire, de prendre le temps. Qu'il se passe quelque chose ou pas, mais en tout cas de prendre un temps de vacances et de vide. Et je ne connaissais pas le Cosméjean, mais je suis allée sur le plateau du Larzac, je suis allée dans l'Aubrac. C'est des paysages qui m'émeuvent beaucoup. La sensation d'avoir l'horizon comme ça, d'avoir vraiment une grande horizontalité, de pouvoir sentir le mouvement des nuages. Il y a la végétation, des couleurs, il y a quelque chose qui me touchait dans l'idée de ce paysage-là. Et puis j'aimais bien l'idée du mystère, c'est-à-dire de ne pas savoir du tout avec qui j'allais partir. Le premier soir d'arriver, de ne pas savoir comment ça allait se passer, ça allait être quoi cette marche. J'avais lu des choses et en même temps, même en lisant des choses, il y avait des choses qui restaient très mystérieuses. Voilà, j'aimais bien l'idée de me laisser traverser, de se laisser traverser par le paysage plutôt que moi de traverser quelque chose, comme de se mettre en disponibilité. Et voilà, pour moi, je suis à la moitié du parcours, je ne sais pas du tout comment je serai demain, comment je serai après-demain et comment je serai les derniers jours. Et à des moments, ça peut être apeurant, mais il y a quelque chose qui passe par-dessus et qui se tranquillise. Je pourrais avoir la peur de l'injonction de « il va falloir faire un rendu, il va falloir être, il va falloir que l'imagination se mette en marche ». Et en même temps, justement, moi j'ai la sensation d'être dans un temps où j'essaye de fermer tous les petits robinets à injonction et de laisser les choses faire, comme tu vois les gouttes d'eau qu'on a vues qui déposent, que ça sédimente un petit peu à l'intérieur. Hier, il y a eu un moment assez magique. Il pleuvait des cordes. On s'est retrouvés à l'endroit des petits chevaux qui doivent partir en Mongolie. Et en fait, on a rencontré des gens passionnants qui bossent là-bas, qui nous ont parlé, qui nous ont expliqué toute l'histoire, toute l'aventure. Et puis, on s'est mis devant la porte-fenêtre et on a regardé. Et en fait, il n'y avait pas les chevaux. Et c'était très bien. C'était pas grave du tout qu'il n'y avait pas les chevaux, parce qu'en fait il y avait cette fenêtre ouverte comme ça, et puis on pouvait se dire que ben il y avait des chevaux libres peut-être derrière la colline, et qu'ils avaient pas besoin d'être vus pour exister, et que c'était très agréable cette sensation là que quelque chose puisse exister sans être vu, et que voilà, de savoir qu'il y a ces animaux là en liberté dans cet espace là, c'est déjà magique.
Oui, bonjour, je m'appelle Christophe Pechenaz, je viens de Dax.
Non, je viens de Lyon, Christophe Pechenaz, donc de Lyon, individu de sexe mâle. 65 ans, aide-soignant à domicile, musicien, faiseur de musique, faiseur de texte, faiseur d'images. Comment je suis arrivé ici? Je connais X, qui est un très très bon ami de Y, qui en fait parlait du projet... comme ça, quoi, sans forcément penser à moi. Puis là, je fais « Oh, ça m'intéresse !» Et donc, Y m'a dit « On verra !» Et puis ensuite, j'ai été contacté. Il a fallu envoyer un pédigré. Visiblement, ça fonctionnait. Et voilà. Donc, c'est, on va dire, quand même par une sorte de cooptation ou relation assez directe avec des gens proches de l'organisation. À propos d'organisation, un truc qui n'a pas été dit, je crois, jusqu'à présent, mais le fait d'être accompagné et soutenu par une logistique, c'est quand même extrêmement plaisant, confortable. En plus, des personnes sympathiques, disponibles et drôles. les petits chevaux. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Les petits chevaux, je me suis dit, mais ça se trouve... Cette structure, cette association manipule l'opinion depuis des décennies. Ces chevaux n'ont jamais existé. Chaque fois que quelqu'un arrive, on leur dit « Ah, oh, vous seriez venu hier. Vous auriez vu les petits chevaux. Mais là, c'est dommage. Ils sont derrière la colline. » Après, le paysage, je le connais un petit peu parce que visiblement, ça croise... Il y a des zones qui croisent avec Stevenson, il me semble, hein, du côté de Florac. Et donc, je connaissais un peu, mais en fait, ça ressemble pas. C'est pas pareil. Ça dépend aussi des conditions de voyage et de la météo. Je trouve ça très, très apaisant. Ça vide la tête. Enfin, t'es pas obligé de penser. On pense toujours. Mais la pensée va à son flux, t'es pas dans une stimulation, une sollicitation permanente, ça flotte. Alors, je vois ça comme ça. Et puis l'environnement est très, impacte aussi sur la pensée, quoi. Donc tu vois un caillou, tu vois un oiseau, tu vois un arbre, et ça peut éventuellement t'amener à penser à d'autres choses, mais ça passe par là, quoi. Et il y a ces moments bénis où tu ne penses pas. C'est assez rare, mais c'est plaisant.
Ne pas penser, quel bonheur, c'est vrai. Voilà pour ce projet Marcher depuis la nuit des temps, le périple entre la grotte Chauvet et la grotte de Lascaux. Ils étaient de passage sur le Causse la semaine dernière. Merci Léo. Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi. Restez bien sur Barthas, on n'y est pas trop mal. Et tiens, pour changer, ce matin, on va se quitter avec Eddie Mitchell, Destination Terre. À très vite, excellente journée. Ciao.
cristal et crispant, mais demeure élégant. Le cri du bar qui ferme est déchirant, tout comme un son de Louis Aram. Quelle que soit la ville, le lieu, l'endroit ou l'heure, y a toujours l'instant où y a un blues qui pleure. Pourquoi les gens qui s'aiment aiment se faire du mal, même à titre expérimental? Peut-être plus salé dans les yeux des amours blessés. Ah, quelle que soit la nuit, le petit jour est à l'heure. Les brèves de comptoir se terminent sur des rancœurs. Faut décoller.